Bien, puis j'ai une... Allez, je vous raconte un petit témoignage. Non, je raconte qu'un. J'avais un deuxième, mais je raconte qu'un. Alors, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant de partir en vacances, on avait fait ici une réunion où on avait exercé les dons spirituels. C'était génial, hein ? Qui était là ? Josiane, tu étais là ? Il y avait Jean-Luc ? Qui y avait d'autres encore ? On n'était pas très nombreux ce soir-là. Marie-Jo, Manon et Michel. Et c'était extraordinaire parce qu'on avait vraiment... Tu étais là, Florence, aussi ? C'était extraordinaire parce que on a commencé à exercer les dons spirituels et exercer le don parole connaissance, prophétique, enfin, don de révélation. Et ça m'avait marqué parce que Michel, j'ai dit, bon, ce qu'on va faire maintenant, deux personnes vont se retourner et puis je vais je vais désigner une personne. Et puis vous allez prier ou qui vient sur votre cœur, vous le dites. Et je me souviendrai toujours, Michel, je peux le dire comme ça, il n'est pas là, hein, ça ne le gêne pas. N'allez pas lui dire que je viens de dire ça. Hein, Michel dit, moi, Josiane, je pense qu'elle a la fibre prophétique, mais moi, lui, j'ai rien du tout. Il dit, je pense pas, voilà. Donc il angoissait un petit peu à l'idée de devoir se retourner et prier. Et tout ce qu'il a prié, tout ce qu'il a apporté ce soir-là, c'était... Mais vraiment pile poil, quoi. Et j'étais réjoui dans mon cœur de voir l'Église, parce qu'on était une Église, on était un petit nombre, mais l'Église entrer dans la manifestation de l'Esprit. Parce que on ne peut pas s'imaginer grandir et faire avancer le royaume de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit et sans l'action des dons de l'Esprit. Parce que Paul le dit bien, les manifestations des dons, elles servent à ça, à l'édification du corps du Christ. Ah, moi, j'étais réjoui dans mon cœur. Je suis rentré jeudi soir à la maison et je me dis, oh, merci Seigneur, je peux partir en vacances. Je suis satisfait, j'étais heureux. Et puis, 22h30, je me mets dans le lit et Maryse me dit, parce que Maryse... elle a son téléphone à côté pour mamie Margotte, au cas où elle a toujours son truc en vibreur. Et Maryse me dit, tiens chérie, je viens de recevoir un texto, enfin un SMS d'une personne qui te demande de te rencontrer. Je lui dis, mais tu rigoles, je suis en vacances. Qui a osé me déranger à 22h30? Elle dit, donc je réponds à plusieurs reprises, j'engage une conversation. Cette personne désespérée du côté de l'Aisne, de Saint-Quentin, Château-Thierry, dans ce coin-là, elle était là-bas, désespérée. Elle a essayé depuis le début de l'après-midi de joindre un pasteur pour prier avec. Et cette personne tombait soit sur des murs, soit sur de l'absence. Quoi. Personne ne lui répondait. Et cet homme était complètement désespéré parce que le lendemain matin, il devait passer au tribunal. Il était hyper angoissé. C'est ce que j'ai pris. Donc j'ai commencé à engager une conversation. Je lui ai dit, si vous voulez, on s'appelle demain. Et le monsieur a dit, s'il vous plaît, aidez-moi, venez à mon secours. Ça va introduire ce que je vais vous dire ce matin. Et donc je dis, vous voyez que vous me connaissez mal dans la vie de tous les jours, mais je dis à Maryse, je vais dans le bureau. J'étais heureux. J'y suis allé en courant, si je puis dire. Et là, dans le bureau, je l'appelle. Et alors, il m'explique la situation dont je tairai. Le gars était complètement désespéré. Le lendemain, la décision du juge, ça fait des années qu'il était... Bon, c'est vrai, cet homme est croyant, mais il a fait plein d'erreurs dans sa vie. Et d'ailleurs, je l'ai amené à la repentance pendant ce temps de conversation téléphonique. Il avait plein de bêtises, cet homme. Il a mal construit sa vie. Mais à un moment donné, il avait besoin de voir Dieu agir. Et donc, au bout d'une heure, je me suis couché tard ce jour-là, et... Au bout d'une heure, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, on va prier. Et donc, on prie et on demande ensemble avec cet homme, après cette longue conversation, cette heure d'écoute, je lui dis, on va demander, puisque vous n'avez jamais obtenu justice, vous n'avez jamais été écouté par les juges et que vous êtes dans votre droit, si telle est la vérité, Dieu vous accordera justice.
Et donc, nous prions ensemble. Je lui dis, bon, maintenant, je vous demande qu'une seule chose. Appelez-moi demain, quand vous sortirez du tribunal, pour me donner des nouvelles. Le lendemain, l'homme m'appelle, il m'a dit, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et d'ici, vous saviez, ça fait 7 ans que je criais justice et le juge a bien voulu m'écouter. Il a suspendu le jugement et nous nous revoyons en septembre pour examiner d'un peu plus près ce qui s'est passé. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que parfois, on se cache derrière des bonnes excuses pour ne pas faire. Et ma bonne excuse, c'était « Seigneur, j'ai bien travaillé cette année. J'ai le droit à mes petites vacances. » Mais est-ce que nous sommes prêts à nous laisser déranger par le Seigneur, bousculer dans nos habitudes par le Seigneur? Pourquoi je vous dis cela? Parce que je me demande parfois si aujourd'hui l'Église n'est pas entrée dans une forme de léthargie. Alors je ne jette pas de jugement sur les églises, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train d'étouffer, d'enfermer l'Église, de la mettre en prison, comme si nous n'avions plus la possibilité de crier bien fort notre foi et de témoigner de la puissance de Dieu. J'ai dit à cet homme, je me souviens, je ne vous demande pas de venir nous voir, bien qu'il m'avait promis qu'il serait là ce matin, mais tant pis pour lui. Mais je lui avais dit, s'il vous plaît, n'oubliez jamais ce que Dieu a fait là. Et je l'ai ramené dans les voies du Seigneur. Je lui ai dit, maintenant, bâtissez votre vie sur ce qu'il vous demande de faire, sur sa parole. Et retenez ce que Dieu a fait dans votre vie. Et soyez fidèles au Seigneur. Marchez avec lui. Rejoignez une église dans votre coin. Et je crois qu'il y a plein de monde autour de nous qui ont besoin d'être conduits vers le Seigneur. Mais comment ces gens trouveront le Seigneur si l'Église se tait aujourd'hui? Je vous pose la question. J'aurais pu dire, j'en ai rien à faire de cet appel. Parce que des fois, vous savez, on a des appels biscornus. Hein. Des trucs bizarres quand on nous appelle. Mais comment... Si j'aurais pu répondre, et j'avoue que j'ai une lutte en moi, en toute honnêteté, j'ai dit, cet homme me fait j'ai pas envie maintenant. Et je pense que l'Église a besoin, nous en tout cas, en tant que corps de Christ, nous avons besoin de, peut-être, de nous secouer un petit peu. De sortir de, un peu de ce qui s'est passé ces derniers mois. Voilà, donc je vous propose de parler de cela ce matin. Ce n'est pas un sujet facile, ce n'est pas un sujet sympa à entendre. Peut-être que je vais vous frustrer, mais tant pis. Il faut... Non, mais j'ai envie de dire les choses telles que moi je les ressens en tant que croyant, en tant que chrétien, mais aussi en tant que pasteur. Voilà, je vais partager mon cœur et je vous promets d'être poli avec vous, quand même. Je ne ferai pas comme un Oucron, je ne vous traiterai pas de branquignol. Une fois, je suis allé prêcher là-bas. Est-ce que j'en fais trop? Ça, c'est Bruno, ça, vous voyez? Bruno, avant le confinement. J'étais partout, là. J'écrivais, je jouais avec ma voiture à la balle, je faisais des avions, enfin voilà. Est-ce que j'en fais trop? C'est une question importante. Parce que tout à l'heure, on a chanté quelque chose qui a impacté mon cœur. On a chanté « Je donne ma vie pour te suivre ». Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, quand il appelle ses disciples, il leur dit bien, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Il y a quand même une notion de renoncement. Or, moi, j'ai entendu ces derniers mois des chrétiens qui remettaient tout en question à cause du confinement. On doit changer notre manière de faire. D'ailleurs, mon épouse a une réponse extraordinaire. Un jour, elle a répondu à quelqu'un qui disait, on doit revoir notre fonctionnement. Et mon épouse a répondu, on ne doit pas revoir notre fonctionnement, mais on doit revoir notre cœur dans ce fonctionnement. Et là, il y a toute une différence. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui remettent en question. Est-ce qu'on doit encore se réunir? Est-ce que le culte a toujours nécessité de vivre aujourd'hui? Il y a des gens qui remettent ça. Hein. Je lis ça sur les réseaux sociaux parfois, je suis étonné. Des gens qui croient, qui disent « Maintenant, ce qui est important, c'est de vivre ma petite foi en famille ou de vivre derrière les réseaux sociaux ou derrière mon écran, de regarder le culte via la télé ou via l'ordinateur. » Alors, mon fils, j'ai des fils enseignants, et ils m'ont dit « Papa, ce qui est important, c'est de donner des objectifs. » Si tu veux être un bon pédagogue, donne des objectifs. Donc j'espère que je vais le satisfaire ce matin. Un, on va définir ce que c'est l'activisme. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on remet les choses en question en disant « je suis devenu activiste ». Vous avez déjà entendu parler de ça? Moi, je me suis déjà dit même. Attention à l'activisme. D'ailleurs, vous ne retrouverez jamais ce terme dans la Bible. La deuxième chose, on va essayer de démanteler et redéfinir cette notion d'activisme qui paralyse beaucoup de chrétiens. Troisièmement, on va examiner l'exemple de Jésus. C'est quand même... on va essayer de se baser sur la parole de Dieu quand même. Hein. Et sur quoi les actions de Jésus étaient basées? Quatrièmement, on va définir un cadre pour nous-mêmes. C'est-à-dire que le cadre de Jésus doit devenir le nôtre. OK? Et cinquièmement, on va répondre à la question, est-ce que vraiment j'en fais trop? Et je vous donne la réponse tout de suite ou pas? Et vous pouvez partir. Ensuite, l'activisme. Alors la première chose de l'activisme, c'est la définition de l'activisme, c'est un trait de caractère qui est de donner un rôle important à l'action concrète dans la conduite de la vie. Autrement dit, c'est de se dire, vous connaissez l'expression du Nord, grand parleux, petit faiseux. Vous connaissez ça? Hein, pour tous ceux qui sont ch'tis de racines. On est allé en vacances en Ardèche. On avait l'impression d'être à Bredune en Ardèche. Il y avait 5, 9, 6, 2. J'ai même entendu les corons. Au nord, il y avait les corons. Je disais, Timothée est venu en vacances en Ardèche. C'était extraordinaire. Pourquoi je dis ça? Oui, les grands parleux, petits faiseux. Pourquoi? Alors, être activiste, c'est de se dire le résultat de ce que je pense, le résultat de ce que je crois n'est pas uniquement le fruit de ce que je dis, mais je dois dire et faire. Question, Jésus était-il activiste? Si je prends cette définition-là, oui. Alors, je vais vous choquer, mais Jésus était activiste. Jésus disait et faisait. Quand Jésus dit, par exemple, « Je suis la lumière du monde », il rend la vue à un aveugle. Vous comprenez? Jésus mettait en importance la correspondance entre les paroles et les actes. La deuxième question. Dans un sens péjoratif, l'activisme est le caractère de ceux qui confondent agitation et action. Il y a des gens comme ça, ils ont besoin de faire plein de choses hein, pour calmer un peu les angoisses intérieures. En psychologie, c'est une action comme un moyen de réponse à l'angoisse intérieure. Il y a des gens comme ça, ils sont obligés de faire, de bouger, d'agir pour calmer une angoisse intérieure. Ce n'est pas cette définition-là que je donne à l'activisme. Pour moi, être actif pour le royaume de Dieu, c'est de faire ce que je dis. C'est de faire ce que Dieu dit. Est-ce que vous comprenez la différence? Et puis, Jésus dira à Marthe, vous connaissez tous l'histoire hein, de Marthe qui s'agite. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. En réalité, Marthe était activiste dans le mauvais sens du terme. Elle comblait quelque chose intérieurement. Elle calmait, elle essayait de calmer quelque chose au fond d'elle-même. Dieu ne nous demande pas de faire pour calmer les choses intérieures de nous. Dieu nous demande de faire ce qu'il nous dit et ce qu'il nous commande de faire. Sur quoi étaient basées les actions de Jésus? Maintenant, on va le voir. Ces actions étaient motivées par les priorités du Père. Aujourd'hui, on doit comprendre, dans la saison dans laquelle nous sommes, quelles sont les priorités du Père. Qu'est-ce que le Père attend de toi? Qu'est-ce que le Père attend de toi? Je n'ai pas la réponse, hein. Mais réfléchissez un instant. Peut-être qu'il veut plus que ce que tu fais aujourd'hui. Peut-être qu'il te demande d'aller et faire quelque chose. Peut-être qu'il frappe et qu'il n'arrête pas de te dire des choses ces derniers temps. Fais, fais, fais. Et toi, peut-être que tu bloques ce que Dieu veut faire à travers toi. En vérité, je vous le dis, Jésus dit ceci, le Fils ne peut rien faire de lui-même sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Est-ce que vous comprenez que les actions de Jésus étaient basées sur les priorités du Père? Jésus ne faisait rien sans que le Père lui ait montré. Et là, ça c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Qu'est-ce que je vais faire dans les temps qui viennent? Quelle est la priorité du Père aujourd'hui pour moi, pour ma famille, pour mes enfants? Quelles sont les priorités? Ah, c'est peut-être les vacances. Peut-être que Dieu a décidé que ta priorité, ce serait tes vacances. Mais après les vacances, quelles sont les priorités du Père pour moi? Il y a des gens, vous allez... C'est bête à dire, mais ils sont sur un chemin et ils continuent, ils persévèrent dans le chemin qui n'est peut-être pas la priorité du Père. Tu fais de bonnes choses, de bonnes actions lorsque tu fais ce que le Père te demande. La deuxième action était motivée par l'amour. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. On peut noter la notion de renoncement. Aujourd'hui, on est dans une phase où je dois me protéger. Et j'entends bien, et je le dis, protégez-vous. D'accord, portons le masque, gardons les distances, etc. Mais est-ce que vous êtes en train... J'essaie de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, on est en train de faire replier les gens sur eux-mêmes, dans leur psychologie, dans leur manière de voir leur monde autour d'eux. Aujourd'hui, c'est la préservation de soi avant des autres. Regardez ce que Jésus fait ici, c'est tout le contraire. Jésus dit, le plus grand amour qu'on puisse montrer à quelqu'un, c'est de donner sa vie pour l'autre. Alors je ne dis pas que la protection et ce qu'on est en train de nous demander de faire est mauvais, je dis attention, parce que dans les temps qui vont venir, l'Église va faire les choses pour elle-même. Dans son autoprotection, elle va en oublier le renoncement et de donner sa vie pour les autres. Je vous dis ça, vous verrez. Tu agis bien lorsque tes actions sont motivées par l'amour. Décidément, le truc. Ces actions étaient motivées par l'annonce du royaume. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée et proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Le moment est fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché, changez de comportement et croyez à la bonne nouvelle. Et Jésus ajoute, et c'est vraiment important ça, aujourd'hui, et c'est dommage, hein, c'est Josiane qui m'a envoyé cette photo cette semaine, ce dessin, de quelqu'un qui a un porte-masque qui a la forme d'une main qu'on a posée devant la bouche. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une main est posé sur la bouche du corps de Christ, de l'Église. Il y a quelque chose qui est en train d'être mis sur notre bouche, mes frères et mes sœurs. Et qu'allons-nous faire avec cette main? J'en parlerai la semaine prochaine. Donc tu agis bien lorsque tes actions sont motivées par l'annonce du royaume. Et ces actions étaient motivées par le fait d'accomplir sa destinée. Pourquoi ? Aujourd'hui, dans cette église, on a décidé de faire entrer les gens dans l'exercice des dons. Parce qu'on a envie que les gens fassent ce pourquoi Dieu les a prédestinés à faire. Tous autant que nous sommes, nous avons reçu des dons. Nous avons reçu des appels. Dieu a dit, voilà, alors que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais, j'avais des projets pour toi. Tous autant que nous sommes, Dieu a un projet pour notre vie. Et la volonté de Jésus, c'était d'entrer et d'accomplir sa destinée. Si difficile soit-elle à un moment donné. Parce que d'être le sauveur du monde, ça n'a pas été une partie de plaisir pour pour lui. On le voit dans le jardin de Gethsémané. Car Jésus dira, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Jésus connaissait sa destinée. Il savait pourquoi il était venu sur cette terre. Il savait pourquoi il avait accepté de prendre cette forme corporelle d'homme pour sauver l'humanité, pour aller jusqu'à la croix. Il était venu pour servir. La destinée du corps du Christ, c'est servir et donner sa vie pour la rançon de beaucoup. On est dans la même dimension, dans la même vie dans laquelle Jésus veut nous faire entrer et dans la vie que Jésus a vécue. Maintenant, mon âme est troublée, Jésus dira. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Parce que des fois, il y a des luttes en nous. On se dit, ça va être difficile quand même. C'est difficile de donner sa vie pour les autres. C'est difficile pour Bruno de se lever de son lit à 22h30 et d'aller dans le bureau pour appeler la personne. Il y a des choses qu'on n'arrive pas, sur lesquelles on a des difficultés à renoncer. Et parfois, notre âme est troublée parce que c'est difficile, parce que c'est dur. Et Jésus dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus était convaincu de sa destinée. La question que je vous pose et que je me pose, sommes-nous convaincus de notre destinée ? Sommes-nous convaincus de notre appel ? Sommes-nous convaincus de ce pourquoi nous avons été créés en Dieu pour servir et donner notre vie pour les autres ? Si vous ne savez pas, c'est le temps de chercher le cœur du Père. C'est un bon sujet de prière. Tu agis bien lorsque tes actions sont motivées par le désir d'entrer dans ta destinée. Le cadre dans lequel nous sommes amenés à conduire nos actions n'a jamais été prévu dans un cadre, dans un système cloisonné. On a cherché, dans toute l'histoire de l'Église, à cloisonner l'Église, à l'empêcher de sortir de ses murs. Je vous rappelle la définition du mot « église », qui veut dire « assemblée », mais qui veut dire « être appelé hors d'eux ». C'est-à-dire que l'église est appelée à sortir, l'église est appelée à proclamer, l'église est appelée à aller faire des nations des disciples, l'église est appelée à sortir de ses murs, sortir de ses cloisonnements. Et la période dans laquelle nous sommes est une période où on nous cloisonne, où spirituellement, nous sommes en train d'être cloisonnés. Et moi, je n'entrerai pas dans ce cloisonnement, en tout cas. L'effet pervers du confinement qui a cloisonné certains croyants qui sont aujourd'hui convaincus d'eux. On peut vivre notre foi sans agir, juste prier, vivre une relation avec le Seigneur et attendre. Je vis ça chez moi. Je l'entends, je vous le dis. J'ai vu des choses. On peut vivre l'Église en famille, à la maison, plus besoin d'aller au culte, aux réunions. On peut vivre l'Église, mais ce qui est important surtout, c'est notre épanouissement personnel. Alors que ça va à l'encontre de ce qu'on a vu tout précédemment. Jésus est venu donner sa vie pour les autres. On peut vivre notre foi, mais c'est le fonctionnement qui doit changer. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le fonctionnement qui doit changer. C'est notre cœur dans le fonctionnement. Quel est mon cœur pour les perdus ? Quand je viens le dimanche ici, je viens toujours avec des ailes dans le dos, moi. Non pas que je suis un ange, hein, vous le savez, mais je viens toujours avec le cœur qui... Vous savez pourquoi ? Parce que l'annonce de l'Évangile est faite. Parce que je suis au service de l'Évangile. Si je viens ici pour servir... une église, si je viens ici pour servir, je ne sais pas, une vision, si je viens pour servir, ok, c'est bien, mais je viens ici pour que les âmes soient sauvées. Je viens ici pour que lorsqu'une personne entre ici, qu'elle entend le message de l'Évangile, elle soit sauvée. C'est pour ça que l'Église est aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle existe. Parce qu'elle est appelée à sortir de ses cloisonnements et à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu balaye d'un revers de la main toutes ses pensées et toutes ses croyances. Et regardez ce qui est dit. C'est dans le livre des Actes. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Alors vous allez me dire, on est dans le même lieu, certes distancié, mais on est dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Si vous avez un peu trop d'argent, n'hésitez pas. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Voyez comment Dieu a fait les choses. Et ça, il le fait par quelque chose qui est extraordinaire, dont l'Église a besoin aujourd'hui. L'effusion du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur les croyants. Ils étaient planqués dans la chambre haute, ils priaient, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. L'action de l'Esprit vient et que se passe-t-il ? Ils se mettent à prêcher la bonne nouvelle. Pierre commence. Pierre, qui était plutôt replié sur lui-même, il en a fait des vertes et des pas mûres. Il avait trahi Jésus. Hein, d'accord. Pierre se sent... Et là, Pierre prend la parole, rempli du Saint-Esprit, nous est dit le texte. Il commence à prêcher la bonne nouvelle. Il est en train de faire une des plus belles prédications de l'histoire. 3000 âmes sont sauvées. Pourquoi ? Parce que Pierre est sorti de son cloisonnement. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ils étaient chaque jour assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons. Quand les personnes disent « on peut vivre notre foi dans les maisons », elles ont raison. Mais à moitié, elles doivent vivre chaque jour au temple et annoncer la bonne nouvelle dans le temple. Les gens qui disent « on peut vivre uniquement ici, au culte », c'est faux. Va et annonce l'évangile dans ta maison. Annonce l'évangile avec tes voisins. Pendant les vacances, nous étions à côté de Néerlandais. Vous savez, parce que les Néerlandais, c'est un petit pays, et il y en a partout pendant les vacances. Vous avez remarqué ça ? Vous voyez que des plaques jaunes. Il y en a partout. C'est comme les ch'tis en Ardèche. C'est pareil. Et les Néerlandais, il y avait des gens à côté de nous. Et Nathan nous dit, un jour, il me dit, je pense qu'ils sont chrétiens. Il me dit, elle a une croix, la dame. Je dis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des croix et... Et puis, alors c'était le dernier soir, on avait décidé de faire un petit repas avec toute la famille. Et puis, on était en train de manger. Et puis, dans l'après-midi, on avait cru entendre, d'ailleurs, « Ô mon âme », le chant là, qu'on a chanté tout à l'heure, j'avais cru entendre ça. J'ai dit, tiens. Et puis, le soir, il y avait le monsieur avait pris sa Bible. La famille était là, ils avaient 3-4 enfants, 3 fils, ils avaient 3 fils. Et avec son épouse, ils étaient assis sur leur tonnelle et puis il annonçait la bonne nouvelle à ses enfants. Quelle belle image, quel bel exemple d'une famille qui annonce la bonne nouvelle. Je suis allé les voir avec mon anglais. Oh, j'ai les noms de ceux qui rigolent. Et on a réussi à se faire comprendre. Eh oui. Et puis, je me souviendrai toujours, parce que je n'osais pas y aller et partager avec eux des petits mots. Et puis, ma belle-fille, Pauline, dit « C'est pas un hasard si tu es à côté. » Vous connaissez Pauline, hein ?« C'est pas un hasard, il faut que tu y ailles. Bon. » Donc, j'y suis allé, on a fait connaissance, etc. Dans la nuit même, je priais pour eux, et dans la nuit même, le Seigneur me donnait une parole pour eux. Le lendemain matin, je l'ai écrit en anglais. Merci Google Traduction. Je l'ai écrit en anglais, et je suis allé leur porter. C'était une parole de bénédiction sur une famille qui avait besoin, à un moment donné, d'entendre ce que Dieu avait à leur dire. Waouh ! Vous voyez combien le cloisonnement. Et ce jour-là, j'y suis allé sans masque. Je me suis tenu à distance. Et j'ai donné mon petit papier comme ça. On s'en va dire au revoir à nos enfants, on revient. La personne, la femme et le mari avaient écrit quelque chose pour nous qu'on a gardé, que je garderai toujours dans ma Bible. C'est une parole qui venait de Dieu. Vous voyez ? Un peuple qui se... déconfine, un peuple qui sort, un peuple qui entre dans sa destinée, par des choses toutes simples, prier, échanger, vivre. J'avais besoin de recevoir cette parole venant de Dieu et eux avaient besoin de cette parole venant du Père. Donc, c'était un exemple pour moi, ces gens, vraiment un bel exemple d'une famille qui rompait le pain dans les maisons et qui enseignait dans la maison. J'ai vu leur fils aîné, à un moment donné, il a dû faire une grosse bêtise. Comment le père, avec sagesse, a repris son fils. Waouh, c'était beau à voir. Je vous le dis, hein, c'était un bel exemple d'une famille chrétienne. Donc, on doit vivre tous les jours au temple, donc rendez-vous demain soir. Et on doit vivre aussi dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et regardez aujourd'hui, regardez le résultat, le Seigneur ajoutait à chaque jour l'Église, ceux qui étaient sauvés. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner. C'est la proclamation de la parole qui doit être annoncée. La parole de Dieu, l'Évangile, est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors voici ce que Dieu veut faire maintenant pour son Église. Je pense que j'ai reçu ça quand j'ai préparé ce message. À un moment donné, le Saint-Esprit est venu, ils étaient ensemble dans les maisons, ils étaient ensemble au temple, ils vivaient. Et regardez, première persécution. Moi, je vous le dis, que le Covid est une certaine forme de persécution. Je le pense. Ça n'engage que moi. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres. Regardez l'image. Ils mettent la main. Ils posent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple. » Il les renvoie là où ils devaient être. Vous comprenez ça ? C'est-à-dire que l'action de Dieu, c'est de dire « Ok, on a posé la main sur vous, mais la main de l'homme ne pourra pas empêcher la main de Dieu de toucher le cœur de ce peuple à Jérusalem. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Notre monde n'a pas besoin aujourd'hui d'entendre des statistiques sur le Covid. Il a besoin d'entendre les paroles de la vie éternelle. Autour de vous, prêchez l'Évangile. Autour de vous, à vos collègues, prêchez l'Évangile. Les gens ont besoin de cette nouvelle. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et ils se mirent à enseigner. Regardez, ça, c'est des bons activistes. Dieu leur parle. Il leur dit, tenez-vous dans le temple. Et que font-ils? Dès le matin, ils agissent. En ce sens, c'était des activistes. Mais des bons, dans le bon sens du terme. Décidément, je galère avec elle. Ah, voilà Bruno qui s'agite. Conclusion et rappel. Ne nous cachons pas derrière la peur de l'activisme qui n'est qu'un faux problème. Nos actions sont motivées par l'exemple de Jésus, faire la volonté du Père, aimer, annoncer le royaume et entrer dans notre destinée. Les portes de nos prisons s'ouvrent. Sortons et annonçons. Nous n'en ferons jamais assez pour le Seigneur. Je suis clair avec vous, on n'en fera jamais assez pour Dieu. Parce que lui qui n'a pas épargné son propre fils, ne nous donnera-t-il pas toutes choses en lui ? Moi, je suis désolé, mais si je n'avais pas connu Dieu, ma vie aurait été un désastre. Et aujourd'hui, la seule réponse que j'ai à lui donner sur tout ce qu'il m'a donné, c'est le don de ma vie. C'est ça l'Évangile. C'est le don de notre vie. C'est de sortir de notre confort. C'est de sortir de nos prisons. C'est de sortir de notre cloisonnement pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Voilà. Je n'ai pas été trop long. Donc, ce que je veux demander, c'est un peu de zizik. Avec Marie, on va prendre un peu de temps dans la louange et puis on va prier. Et je voudrais ce matin prier pour les personnes qui se sentent cloisonnées, qui sentent qu'il y a une main sur leur bouche. Y en a-t-il parmi nous ? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'annoncer la bonne nouvelle ? Non, personne ? Si ? Il y en a quelques-uns ? On va prier pour ça. On va prier aussi et demander, est-ce que des personnes parmi nous, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas quelle est leur destinée, qui ont besoin de comprendre ? Vous voyez ? On va prier pour toi. Aussi, ouais. Quelle est votre destinée ? Eh bien, on va prier aussi. Waouh, ouais, aussi. Oh Seigneur. Je suis triste de voir combien l'action de diable est puissante, parfois, active. Père. Seigneur, des fois on nous jette en prison et souvent on a jeté ton peuple en prison et on a cloisonné l'Église pour l'empêcher d'annoncer la bonne nouvelle, pour empêcher l'annonce du royaume. Et on a besoin de toi ce matin. De la même manière que tu as envoyé l'ange ouvrir les portes, je te demande d'ouvrir les portes. Les portes de nos prisons, les portes de ce qui nous cloisonne. Et je prie, Père, et nous prions tous ensemble, que tu touches le cœur, que tu touches nos âmes, et que tu nous délivres aussi physiquement. De ce qui ferme notre bouche aujourd'hui, de ce qui empêche l'annonce de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je prie pour l'Église, je prie pour Bethsalel, mais je prie pour l'Église, que ces temps soient des temps où l'action puissante de ton esprit, Seigneur, vienne en nous. Je demande, Seigneur, un nouveau baptême dans l'esprit. Je demande une nouvelle Pentecôte pour l'Église. Je demande, Seigneur, que tu donnes à chacun, à chacune, à tous ceux qui ont levé la main ce matin, que tu leur donnes de comprendre quelle est leur destinée, de comprendre et d'entrer par obéissance. De la même manière que ces hommes ont été délivrés et qu'ils entendirent de se tenir dans le temple, le lendemain même ils y étaient. Père, je te prie pour la promptitude à l'obéissance. Dans les temps qui viennent, décloisonne, Seigneur. Dans les temps qui viennent, Seigneur, enlève la main qui est sur notre bouche, Père. Dans les temps qui viennent, Seigneur, libère l'Église et fais-la entrer dans ta gloire. Fais-la entrer, Seigneur, dans l'annonce puissante de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Éternel Dieu, ce matin, nous prions et nous intercédons et nous déclarons la liberté sur l'Église, la liberté de la, pour l'annonce, la liberté dans les actions. Père, on te prie, pas simplement pour une Église qui annonce, mais une Église qui fasse les choses de manière à ce que nous puissions être comme toi, actifs pour le royaume. Je t'en prie, Père éternel. Amen.